Transversal.
Auditrices et auditeurs de Transistor, soyez les bienvenus dans le 38e numéro de Transversal.
France Inter, 19h.
Ce matin à Pékin, pour la première fois dans l'histoire de la Chine communiste, un président des États-Unis foule le sol chinois. Et d'emblée, cette rencontre du siècle, comme on l'appelle, Bernard Benyamin, a bousculé tous les programmes. Alors que rien ne laissait prévoir, le président Nixon a rencontré dès ce matin le président Mao Tse-tung.
Pendant une heure, en effet, le chef de la Maison Blanche a discuté avec le président Mao. Rencontre de deux mondes, confrontation du tigre de papier et du chef de la Chine rouge, en tout cas, rien n'a filtré de ces entretiens.
Alors maintenant, quelles sont les premières réactions dans le monde? Nous allons commencer par Washington, Daniel Saint-Amand.
Lorsque les premières images de Pékin sont apparues hier soir sur les petits écrans, l'émotion des Américains a été un peu comparable à celle qu'ils ont ressentie lorsqu'on vit en juillet 1969 Armstrong marcher sur la Lune. Un président américain à Pékin qui l'eût cru il y a seulement un an. Cela dit, tout le monde a pleinement conscience ici de l'importance historique de ce voyage. Le fait que Chou Enlai ait souhaité dans son toast l'établissement de relations normales entre Pékin et Washington laisse espérer aux observateurs que les résultats de cette rencontre pourraient être finalement beaucoup plus considérables et immédiats qu'on ne l'espérait de prime abord.
Soyez rassurés, Transversal ne va pas vous raconter d'histoire, même s'il sera un peu question aujourd'hui de la grande histoire. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de musique à l'occasion de la nouvelle production à Paris, au Théâtre du Châtelet, de Nixon in China. Avec cet opéra créé en 1987 et qui a été le premier à se saisir d'un fait historique contemporain, la visite en 1972 du président Richard Nixon à la Chine communiste de Mao Tse-tung, le duo formé par le compositeur John Adams et la librettiste Alice Goodman a fait entrer leur lyrique américain dans une nouvelle ère. Et c'est pour vous en apprendre un peu plus sur cette œuvre complexe et fascinante, trop peu connue du public français, que je vous propose, dans notre petit salon, une rencontre avec Michel Duchesneau, professeur agrégé, titulaire de la chaire en musicologie de l'Université de Montréal, où il enseigne notamment l'histoire de la musique au XXe siècle, également directeur de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Juste après notre entretien principal, retrouvez en fin d'émission dans notre agenda notre coup de cœur de la semaine pour une jeune pianiste franco-brésilienne. Mais tout de suite, place à notre petit salon de musique.
Flight was smooth, I hope.
Oh, yes!
Smoother than usual,
I guess.
Yes, it was very pleasant. We stopped in Hawaii for a day. And Guam to catch up on the time. It's easier that way. The Prime Minister knows about that.
News, 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 has a kind of mystery. Has a kind of mystery. When I shook hands with Joe and Lai, when I shook hands with Joe and Lai, on this bare field outside Peking, just now the whole world was listening.
Michel Duchesneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour Transversal.
C'est un plaisir.
20 ans, c'est le temps qu'il aura fallu t'attendre pour voir reprogrammer en France, dans une grande salle parisienne, en l'occurrence le Théâtre du Châtelet, Nixon in China. Si son compositeur John Adams a depuis longtemps gagné ses lettres de noblesse ici, sur le continent américain, étant reconnu comme celui qui a su insuffler une nouvelle jeunesse au genre lyrique, force est de constater que son œuvre en France ne bénéficie pas de la même audience. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les propos de Nicolas Joël, directeur de l'Opéra National de Paris, rapportés par le journal L'Express, lorsqu'on lui demande pourquoi il refuse catégoriquement de programmer le compositeur américain. Un compositeur de crossover, de soupe à la mode Broadway, tels sont les termes employés par Nicolas Joël pour qualifier une œuvre pourtant considérée outre-Atlantique comme fondatrice. Il faut dire que dans un pays d'ancienne tradition lyrique comme la France, l'opéra américain est souvent regardé avec curiosité, ignorance et parfois mépris. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce compositeur, toujours vivant, adulé par certains, conspué par les autres, et sur la place qu'il tient dans le XXe siècle musical ?
Oui, on va essayer de parcourir rapidement quelques traits importants de sa carrière. En fait, John Adams est un compositeur de la deuxième génération des minimalistes. Hein. Donc en fait, la première génération des minimalistes est née dans les années 30. Lui, il est né dans les années 40. En fait, il est né en 47. Et donc, c'est un compositeur qui donc s'est intéressé à toutes sortes de choses, comme les autres d'ailleurs, au jazz, aux musiques actuelles. En plus, c'est un clarinettiste aguerri, donc musicien donc féru. Il a donc développé, je dirais, donc un style qui lui est propre. Ça veut dire qu'il a exploré le monde du minimalisme. Je dirais sur les traces de Riley, de Glass évidemment, mais en adoptant rapidement une attitude plus libre, hein, donc par rapport à l'orthodoxie minimaliste, où il s'est permis d'intégrer donc toutes sortes d'éléments qui n'étaient pas forcément ce qu'on pouvait attendre dans une œuvre minimaliste. Ça veut dire donc les traits et les gestes de musique romantique. Il s'est intéressé aussi donc aux influences musicales donc de musique populaire sur la musique savante. Donc dans ses œuvres, on va retrouver donc la musique populaire américaine, le jazz. D'ailleurs, dans Nixon in China, il y a de ces influences-là. Donc, et il a évidemment donc écrit un certain nombre d'œuvres qui ont marqué, je dirais, la musique américaine. On pense à une de ses œuvres très importantes, Short Ride in a Fast Machine, qui est une œuvre tout à fait intéressante donc pour petit ensemble et qui donc a généré donc je dirais un courant nouveau hein, par rapport au minimalisme, donc d'intérêt, parce qu'on se dit ah, ça va plus loin. Après ça, il y a eu évidemment la Chamber Symphony 1992, il y a eu plusieurs œuvres opératiques donc qui ont marqué. Donc outre Nixon in China, qui est la première œuvre importante, mais il y a aussi The Death of Klinghoffer de 1991, il y a eu El Nino en 2000, et il y a eu aussi Dr. Atomic de 2005. Donc c'est un compositeur qui a décidé aussi de s'inscrire dans son monde contemporain à travers des sujets d'œuvres dramatiques historiques, mais en même temps très actuels.
Ce qu'on a parfois pu lui reprocher, justement.
Ce qu'on lui a certainement même beaucoup reproché, on va pouvoir y revenir, quand il a présenté Nixon in China. Alors que c'est au fond extrêmement intéressant, si on pense à Dr. Atomic, qui est en fait l'histoire de Oppenheimer, donc au sein du Manhattan Project, donc de la création de la bombe atomique. Il me semble que c'est un sujet tout à fait dramatique. Certes, on n'est pas dans un univers de cavernes ou de forêts sombres à la Pelléas et Mélisande, on est dans un centre de recherche atomique, c'est donc un univers très différent, ce qui a pu en effet choquer beaucoup de gens au début, mais je pense qu'aujourd'hui on est déjà ailleurs.
Donc revenons plus particulièrement sur son premier opéra, à savoir Nixon in China. Si aujourd'hui, ce qu'on peut appeler couramment les opéras d'actualité, donc sont, comme vous l'avez rappelé, plus ancrés dans la tradition lyrique, surtout américaine et anglaise, outre les œuvres de John Adams, on peut penser notamment donc, à la commande de l'opéra de San Francisco sur le 11 septembre avec Earth of the Soldier. La création, elle, de Nixon in China à Houston donc, en 1987 n'avait rien d'évident et fut même considérée comme une provocation. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur le contexte et les idées ayant entouré la création de l'œuvre? Et peut-être nous parler de la manière dont la société américaine a pu accueillir cet opéra.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait quand on lit donc à la fois les témoignages des journalistes, de Adams lui-même, des artistes et qu'on y réfléchit à distance aujourd'hui, c'était une époque pleine de contradictions et de paradoxes. Hein. 1987, on est dans la dernière phase du règne de Reagan. Donc en fait on est dans une période américaine où l'Amérique est en, je dirais, en situation d'opposition ferme par rapport au monde communiste, où la détente hein, donc, qui avait été initiée par les présidents précédents donc, a été remise en cause. Donc, présenter une œuvre en plein cœur des États-Unis, à Houston, où on va donc parler de la visite de Nixon à Mao en 1972, qui est en fait le premier geste donc, que les Américains vont poser pour tenter de désamorcer la guerre froide, au fond, hein, de créer des relations diplomatiques avec la Chine, parce que c'est le début des relations diplomatiques américaines. Je veux dire, c'est en effet, au fond, gifler la politique internationale américaine de l'époque. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui était vu, très mal vu.
Et d'ailleurs, dans l'extrait de France Inter qui a été diffusé en début d'émission, dans un passage coupé, le journaliste rappelait que si, au premier jour de la visite, les Américains étaient quand même sous le choc de l'émotion, très vite, ils allaient reprendre leurs habitudes pour regarder leurs séries télé habituelles et peut-être ne pas suivre la visite de Nixon tous les jours attendant le...
Ça, c'est vrai que donc, c'était à la fois donc, tout à fait nouveau pour eux, mais ça n'a pas eu peut-être tout de suite l'importance qu'on pouvait imaginer. Donc, ça fait aussi en sorte que l'événement a peut-être pas eu toute l'importance qu'il devait avoir pour les Américains, enfin du moins dans leur mémoire. Mais vous aussi pensez qu'en 1987, lorsqu'on crée l'œuvre, Nixon est au plus bas. En fait, les gens se souviennent du Watergate. Hein. Donc pour eux, Nixon, pardonnez-moi, mais c'est un président pourri. Les scandales se sont empilés les uns par-dessus les autres, donc il a démissionné avant de se faire destituer. Donc alors il y a certains que ça ajoute une dimension.
Et en plus, la grâce dont il a pu bénéficier après n'a pas aidé à cette image.
Ça a généré l'image d'un président donc, difficile à accepter face à la grandeur américaine. Donc c'est évident que pour les Américains, c'est un personnage ambigu, parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses importantes. Je veux dire, même s'il a, donc, au début de son mandat, donc les années 70, donc, il a fait en sorte que la guerre du Vietnam se développe, en fond, mais il a en même temps travaillé à ce qu'elle s'arrête. Hein, donc c'est lui qui, après d'ailleurs, sa visite à Mao, c'est pas directement en lien, mais quand même, on sent que là, il y a une volonté de signer les accords de Paris viennent d'après, je veux dire, donc, pour que la guerre du Vietnam cesse. Hein, il aura quand même réussi à amener les Russes à revoir leur position face aux États-Unis et à donc entamer un processus de détente, comme on l'a appelé après. Et c'est sa visite en Chine qui a généré ça.
D'ailleurs, notons que les Chinois, eux, ont une image beaucoup plus positive du président, justement, suite à cette visite, que les Américains.
Ah, mais pour eux, c'est d'être un homme extraordinaire. C'est-à-dire, d'abord, de s'être déplacé. En plus, il semble que donc, ça ne se soit pas si mal passé avec Mao. Et il découvrait... Alors, avec Nixon, venait aussi l'Amérique, dans quelque sorte. Donc, pour les Chinois, c'était aussi la découverte des Américains, qui n'étaient peut-être pas de si méchantes personnes, comme on leur avait décrit auparavant.
D'ailleurs, le metteur en scène chinois du Châtelet parle d'un vieil homme bienveillant, en parlant de Nixon, justement. L'image qu'il avait reçue à l'époque des journaux.
Tout à fait, je pense qu'il y a de ça, et ça a été important. Alors, ça a contribué, je pense, à créer une meilleure atmosphère entre les deux pays, bon, mais qui restait toujours sensible, on va dire.
Et on disait donc une provocation, peut-être faut-il rappeler aux auditeurs qu'en 1987, Nixon était toujours vivant, justement. La guerre froide n'était pas non plus encore tout à fait terminée.
En fait, on était même dans une période de relations diplomatiques intenses et complexes et difficiles. Je veux dire, la politique reaganienne, donc qui ont précédé celle de la famille Bush, je veux dire, donc on fait des États-Unis, donc pays querelleur.
On voit bien donc que le sujet de l'opéra est éminemment historique, mais aussi à l'époque d'actualité. D'ailleurs, les qualificatifs n'ont pas manqué hein, pour tenter de caractériser cette œuvre singulière du répertoire. On a parlé tour à tour d'opéra CNN en référence à la chaîne d'information, d'opéra du réel, d'opéra politique, terme d'ailleurs repris récemment par le Figaro au sujet de la production parisienne, et aussi de docu-opéra. Cependant, si on regarde hein, le livret donc, de l'œuvre qui est versifié en distique, livret que l'on doit à la poétesse Alice Goodman, on a l'impression qu'il permet finalement de créer une sorte de distanciation entre les événements factuels de la visite diplomatique et la réflexion sur l'exercice du pouvoir politique. Plus que la simple narration objective d'un voyage, lorsqu'on regarde l'œuvre, on a l'impression que l'essence même de l'opéra semble se localiser dans sa capacité à élever notre propre monde, notre propre histoire et actualité au niveau mythique de l'art, en investissant un présent dont on a rappelé qu'il avait été très décrié, pour créer de nouveaux mythes. En ce sens, est-il toujours pertinent de parler de docu-opéra ou d'opéra d'actualité pour Nixon? Et cette façon de se saisir de l'actualité n'est-elle pas, pour l'opéra, un moyen de regagner la place et le rôle qui a toujours été le sien dans la société et la vie culturelle?
Alors, je répondrai assurément à votre dernière question. Je veux dire, pour moi, c'est une œuvre qui est passionnante, justement, pour cette idée donc, de l'œuvre artistique qui se saisit d'un événement historique, dans le cas présent, et qui s'en sert comme d'un levier pour transmettre beaucoup de choses. Donc peut-être une mémoire, donc c'est la mémoire de l'événement qui est enrichie par l'œuvre artistique, mais c'est aussi une vision différente de cet événement, et aussi peut-être ramener cet événement à une autre dimension qui n'est pas historique, mais qui est humaine. Donc c'est à une échelle humaine. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers donc ce livret en vert, qui fait des personnages, donc autant de Nixon que de Mao que de Kissinger, des gens parfois à la fois donc dramatiques, ridicules, perdus ou dans leurs pensées, tristes, donc étonnés, des êtres humains qui ont des émotions et qui vivent leurs émotions. Moi, je trouve que l'œuvre est réussie à ce niveau-là. Ça veut dire que donc du personnage public froid, distant, qui prend des décisions pour le bien de la nation, on passe à autre chose. On est à travers des êtres humains qui sont traversés de paradoxes, d'ambiguïté, d'incertitudes, d'inquiétudes. Et ça, ça sort très très bien dans l'œuvre. Donc moi, je pense que c'est une œuvre qui n'est pas un simple documentaire. Et donc, alors ça, c'est le terme opéra CNN. Bon, ça, c'est plus récent comme expression. Je pense que c'est pour les... C'est un peu vite dit.
En parlant d'opéra CNN, justement, CNN était dans l'actualité, donc dans l'immédiat, l'opéra, lui, était plus ancré dans les temps longs, et ce, notamment, de la réflexion.
Exactement, et je pense que, sans donner à l'œuvre une importance qu'elle n'a peut-être pas, c'est quand même une œuvre qui nous permet de revoir l'histoire sous un autre angle, et de penser à combien ces gens-là, je dirais, dans des événements importants, parce que Nixon, je pense, quand il a fait ce geste-là, il savait très bien que ça avait des conséquences très lourdes pour l'avenir. Il vit aussi leur quotidien d'être humain avec ce qu'il est. Et j'insiste parce que je pense que ça a été important. Ça.
Et donc finalement, plus qu'une simple épopée historique ou commentaire d'actualité, on pourrait parler à la fois peut-être d'une satire politique ou d'une réflexion sur l'exercice du pouvoir politique.
Tout à fait, tout à fait. La réflexion sur l'exercice du pouvoir politique, à mon avis, est évidente.
Sachant qu'elle passe à travers justement les hommes qui font ce pouvoir et leur personnalité.
Et oui. Hein, donc, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je pense que lorsque Nixon est venu... en Chine, pour les Chinois, ils ont découvert non seulement Nixon, mais ils ont vu Mao dans une situation qui n'était peut-être pas forcément celle auquel ils auraient pu l'imaginer, personnage qui les a fait souffrir aussi. Hein. Donc là, il y a une autre dimension hein, qui s'ajoute à cela.
D'ailleurs, rappelons que Nixon et Mao ne sont pas les seuls protagonistes de cet opéra, puisqu'on retrouve à la fois Kissinger, la femme de Nixon, mais aussi le premier ministre chinois de l'époque, Zhou Enlai.
Ce qui génère d'ailleurs donc une trame dramatique plus complexe, hein, donc où on voit les intérêts divergents des uns et des autres, les approches divergentes, hein, parce que Kissinger n'était pas donc tenait à cette visite, hein, parce qu'il savait que c'était extrêmement important.
Visite qu'il a d'ailleurs préparée un an avant, en rendant secrètement à Pékin, alors qu'il allait officiellement au Pakistan.
Voilà, donc ce qui nous donne une bonne idée de la situation politique internationale de l'époque, et alors que lui donc a toujours été resté prudent, je veux dire donc il avait donc entretenu Nixon, on dit pendant plus d'une quarantaine d'heures pour préparer son arrivée, simplement l'arrivée. Donc il savait que c'était délicat, difficile. Il était prudent. Nixon est arrivé là-dedans peut-être avec une autre façon de faire, hein, plus ouverte peut-être.
Donc justement, on parle de prudence, prudence qui semble peut-être illustrer ce que représente l'opéra, avoir un choc finalement entre deux cultures, une rencontre au sommet entre deux États qui se sont détestés. D'ailleurs, Nixon in China a été créé par une équipe entièrement américaine et n'a jamais été joué en Chine. Peut-on donc parler d'une œuvre 100% américaine ?
Alors oui, c'est évidemment une œuvre 100% américaine. Parce que, en fait, à travers le ballet de Mark Morris, il y a en effet donc, des références donc, au spectacle de danse traditionnel chinois. Mais tout le reste de l'œuvre est purement américain, et je dirais, alors, dépassons, est purement occidental. Hein, parce qu'au fond, l'œuvre musicale, c'est à la fois donc, le minimalisme, certes, mais c'est aussi énormément de traits stylistiques puisés dans la tradition romantique de l'opéra, dans les genres plus populaires que sont le foxtrot. Hein, donc il y a un foxtrot.
Qui est peut-être un écho, justement, à la propre jeunesse du président Nixon.
Possiblement. Et pour Adams, en fond, je veux dire, l'expérience musicale passe par le langage que lui maîtrise d'abord et avant tout, et il y avait certainement aussi un souci de ne pas faire une visite guidée de la Chine par à travers donc des éléments musicaux culturels par exemple, et ça je pense que c'était un choix pertinent. Donc il a maintenu ça dans une esthétique occidentale, donc c'est une vision donc purement occidentale, et à mon avis c'est une des raisons pour lesquelles ça marche, hein, c'est que c'est très cohérent.
D'ailleurs, lorsque des éléments chinois sont intégrés à l'œuvre, on peut penser notamment au chant de l'armée avant donc l'atterrissage de l'avion présidentiel. Ils sont finalement intégrés à l'œuvre dans une façon tout à fait occidentale, même si les paroles, elles, viennent du répertoire traditionnel.
Exactement.
Du chant militaire.
Donc ça, je pense que Adams n'est pas tombé dans le piège ethnographique, on va dire, point de vue de l'écriture musicale.
Donc justement, on parlait d'écriture musicale et vous nous avez rappelé que John Adams est souvent tenu comme étant un des principaux tenants donc du minimalisme américain. Peut-être pourriez-vous quand même nous rappeler rapidement ce qu'est le minimalisme en quelques mots et surtout nous dire si l'on peut classer tout de même Dixon & Chyna dans ce courant musical.
Alors, le minimalisme, en fait, est un courant qui a été développé par un certain nombre de compositeurs, donc Lamonté Young, Riley, qui a écrit une œuvre célèbre qui s'appelle In Si, en Do. En réalité, c'est donc 53 motifs, si j'ai bon souvenir, donc, qui sont constamment répétés. Donc, tout le monde répète les mêmes motifs, et la durée est indéterminée. Donc, l'œuvre minimaliste est basée sur un matériau musical extrêmement simple, donc, et qui est continuellement répété, éventuellement qui va subir des modifications infinies. Donc la musique de Philip Glass en est un exemple, qui fait qu'il va quand même se transformer au fil du temps, mais base fondamentale c'est la répétition du même matériau sonore donc pendant toute la durée de l'œuvre. Chez Adams c'est le principe de base, hein, celui de la répétitivité, mais qui est fortement nuancé. Il va inclure donc dans son matériau un aspect beaucoup plus mélodique. Ça veut dire que on va se retrouver dans le Nixon in China avec donc les bases qui sont répétitives et va être dominé donc tout l'ensemble orchestral répétitif, on va dire, et va être dominé par exemple mélodie, donc des arias. On va se retrouver avec des arias qui sont intégrés au système de la répétitivité. Il va y avoir des effets de nuance et de dynamique très très forts, qui sont, je dirais, le propre de la musique dramatique héritée du 19e siècle. Il ne se gênera pas. Au niveau des couleurs, évidemment, il a la chance d'avoir un orchestre. Je dirais, il a écrit Nixon in China pour un orchestre considérable, un grand orchestre symphonique, auquel il a ajouté donc une ample section de saxophones et beaucoup d'instruments de percussion et aussi des synthétiseurs. Donc il y a un matériel sonore au niveau du timbre extraordinaire. Donc ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de vivre 3 heures d'opéra avec seulement quelques motifs qui sont continuellement répétés, pas du tout. Il y a un principe de répétitivité qui crée le moteur de l'œuvre, mais l'œuvre est traversée donc, de mélodies, timbres, de rythmes qui vont varier. Hein. Donc c'est une œuvre donc que certains vont avoir appelé une postmoderne typique, hein, donc je pense à Michel Schneider qui a fait un commentaire sur Adams, il disait compositeur par excellence postmoderne, parce qu'au fond donc il abandonne la modernité pure et dure, hein, au profit donc d'un recyclage d'un certain nombre de matériel, certes, mais c'est pas un recyclage brut, c'est en fait plutôt de reprendre des gestes artistiques, musicaux évidemment, donc et de les exploiter dans un nouveau concept qui est celui donc du minimalisme.
Donc on comprend bien que les choix musicaux opérés par John Adams l'aident finalement à créer une dramaturgie musicale qui lui est propre. Et finalement, en quoi ces choix servent-ils le propos même de l'opéra ?
C'est une œuvre musicale de son temps, hein, donc l'utilisation du minimalisme, donc ça l'inscrit dans une période bien précise. Hein, donc c'est une œuvre qui est moderne pour cela. Et pas dans le sens, on va dire, boulésien, par exemple, du terme, mais plutôt, donc, nord-américain, donc, du minimalisme. Mais ça lui permet, donc, de faire appel aussi, donc, je dirais, à une ouverture d'esprit. Ça veut dire qu'on va utiliser du matériel musical donc très diversifié, qui pourrait sembler faire appel au principe du collage, mais qui ne l'est pas du tout de toute façon, parce que ce matériel possède un pouvoir expressif tout à fait vivant encore. Alors pourquoi ne pas l'exploiter ? Et je pense que ça c'est important. Et en plus, donc il y a un attrait pour la consonance. Ça, c'est évident que dans ces œuvres-là, on est dans un univers consonant. et ça permet à l'auditeur d'être peut-être plus à l'aise que dans d'autres cas et de pouvoir à ce moment-là concentrer son attention sur la trame dramatique, sur les performances des chanteurs, des danseurs, sur la qualité des voix, des timbres. Donc c'est une œuvre où on est acoustiquement très à l'aise et on est porté par le rythme constant de l'œuvre. Alors à ce niveau-là, je pense qu'il a exploité le potentiel dramatique du matériel musical de façon admirable.
On a bien compris donc que l'œuvre était finalement résolument ancrée dans son temps et dans sa modernité. En quoi peut-on la considérer comme une redéfinition des paramètres de l'opéra américain dans son ensemble?
Je pense que c'est une œuvre qui exploite bien les traditions de l'opéra. Donc contrairement donc au directeur de l'opéra de Paris, je pense que c'est ça, qui dit que je pense que c'est une vision passablement dépassée à mon avis. C'est une œuvre qui exploite fort bien les conventions de l'opéra et qui en même temps donc se caractérise par un courant artistique proprement américain, le minimalisme. Donc là, il y a déjà une belle fusion. D'autre part, c'est un sujet ancré dans son temps et en même temps critique. C'est une œuvre qui n'a pas voulu se faire juge, mais plutôt regarder ça avec un peu d'ironie. C'est une satire aussi. Et en même temps, une œuvre qui permet donc de revenir sur cet événement avec, je dirais, donc un matériau sonore riche et franchement intéressant.
En conclusion, pour nos auditeurs, finalement, comment pouvons-nous caractériser donc cette œuvre singulière dont vous venez justement de souligner la richesse?
Pour moi, c'est une œuvre qui transpose donc un événement qui est réel, hein, donc dans un univers impossible qui est celui du monde de l'opéra, de la scène. Hein, donc en fait, c'est un univers de rêve, je dirais, où tout est possible. Je l'ai dit, mais aussi où on peut se permettre de rêver et où l'absurde, l'ironique peut se côtoyer avec l'irréalisme. Ça nous permet d'aller ailleurs. Ça veut dire de reconsidérer ce qui nous est présenté sur scène. Et pour y trouver d'autres significations que celles politiques. Hein. Comme je vous dis, c'est vraiment cette question du drame humain, de ce que représentent les êtres humains, même dans ces situations donc, contemporaines. Ce qu'on cherche souvent dans les œuvres anciennes, hein, c'est cette intemporalité des drames. Hein, donc l'amour, la mort, les guerres. Bon, mais on n'est donc pas gêné par la magie. On n'est pas dans les œuvres du répertoire. Tout ça semble aller parce que c'est des conventions. Et là, tout d'un coup, parce que c'est un sujet qui nous est proche de nous, il y aurait un malaise. Parce qu'on ne pourrait pas transposer tout ça dans un monde irréel avec un peu de magie ou d'absurdité ou de situation qui dépasse l'entendement. Et non, au contraire. Tout d'un coup, c'est de relativiser ce que nous sommes nous-mêmes et que notre réalité possède d'autres dimensions et qui sont peut-être intéressantes à explorer.
D'ailleurs, j'invite nos éditeurs à regarder sur Internet, puisque les captations sont visibles, la mise en scène originale de l'œuvre qui souligne bien cette distanciation entre le réalisme du voyage diplomatique et la réflexion qui, elle, est propre au monde de l'opéra.
Tout à fait.
Michel Duchesneau, merci beaucoup pour cet entretien.
Ça m'a fait plaisir.
J'espère que nos auditeurs auront envie de découvrir l'œuvre de John Adams et qu'elle sera programmée plus souvent en France.
Je l'espère aussi.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Into the war, more, 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 flesh rebels.
Et maintenant, place à l'agenda de Transversar. Et cette semaine, coup de projecteur sur une jeune pianiste franco-brésilienne en récital à Lyon le 25 avril à la salle Molière, Juliana Steinbeck. Acclamée par la critique pour son tempérament de feu, son charisme exceptionnel et la grande maîtrise de son instrument dans les répertoires romantiques et modernes, ainsi que pour la finesse et l'intelligence de ses interprétations classiques, Juliana Steinbeck est assurément une des artistes les plus douées de la jeune génération. Si elle a commencé sa formation musicale en France, tout d'abord à Lyon, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où elle a obtenu les plus hautes distinctions, elle s'est ensuite perfectionnée à la prestigieuse Académie de Piano d'Imola en Italie, ainsi qu'à la Juilliard Art School de New York, profitant des conseils de Jacques Rouvier, Franco Scala ou encore Maria João Pires tout au long de sa formation. En août 2005, Juliana Steinbeck a également créé le festival de piano et de musique de chambre Musique Embryonnée, événement annuel attirant une audience internationale dans les églises romanes de la Bourgogne du Sud. En une semaine de concerts, d'ateliers et de promenades, le festival permet à la jeune pianiste de construire des programmations originales et de présenter ses nouveaux projets, en récital comme en compagnie de ses fidèles partenaires de musique de chambre. En effet, Juliana Steinbeck a déjà signé près de 4 disques de musique de chambre et a enregistré en 2008 son premier récital Tableau, dont elle nous propose aujourd'hui, à travers son nouvel album, une prolongation. En effet, dans la lignée de ce premier album, Juliana Steinbeck signe en mars 2012 un hommage à Debussy. Le programme choisi par la pianiste pour son récital lyonnais fait honneur à ce nouveau CD salué par la critique et présente deux compositeurs et leurs références littéraires. Debussy et Verlaine pour une première partie très poétique, élaborée autour de la célèbre suite bergamasque, Liszt, Dante et le mythe de Faust, pour une explosion de virtuosité en seconde partie de concert. Le récital Hommage à Debussy, à l'occasion de la sortie du disque, se tiendra donc à la salle Molière de Lyon le 25 avril à 20h30. Les tarifs en première série vont de 25 à 20 euros et de 15 à 10 euros en deuxième série. Informations et réservations par téléphone au 06 52 57 33 93 ou à la boutique Harmonia Mundi, 21 rue du Président Édouard Herriot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Téléphone de la boutique 04 78 39 08 39. Courez-y, vous ne le regretterez pas et je vous invite d'ailleurs à consulter le site internet de la pianiste www.julianasteinbach.com. C'est tout pour aujourd'hui. Des extraits musicaux que vous avez entendus pendant l'entretien de Nixon in China sont tirés de l'enregistrement original de la pièce disponible en CD et dont vous retrouverez les références sur le site internet de Transistor. Ainsi s'achève cette émission, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir un peu plus l'univers de John Adams, mais aussi de courir sans tarder à la salle Molière de Lyon. Bonne semaine à tous, et bonne fin d'écoute sur Transistor.